Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
La transmission de la culture DevOps est un enjeu essentiel dans une entreprise. Comment transmet-on une culture aux nouveaux arrivants? Toutes ces questions-là, je vais les aborder avec mon invité du jour.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Castronovo. Daniel est membre de la communauté des compagnons de DevOps et fidèle auditeur du podcast. C'est même lui qui me l'a dit, et qu'en me contactant pour me faire part de son avis d'être co-animateur de Radio DevOps. Bah, du coup, je lui ai demandé s'il pouvait nous rejoindre dans cette fameuse interview d'En Aparté. Et puis, on va pouvoir l'écouter. D'ailleurs, toi aussi, tu peux nous rejoindre. Il te suffit pour cela de me contacter directement sur le forum des compagnons. Si tu écoutes ce podcast, comme tu le sais, il est en licence libre. Il est en CC BY SA. Tu peux l'utiliser, tu peux découper des bouts, tu peux en faire ce que tu veux. Du temps qu'en fait, tu cites la source et que tu nous préviennes, tu nous envoies un petit message. Et puis, n'hésite pas à le partager parce que tu sais à quel point c'est difficile de faire connaître un podcast. Bonjour Daniel, bienvenue.
Bonjour Christophe.
Alors justement, la première question que je vais te poser, c'est que les gens ne te connaissent pas encore, c'est aussi l'objet de l'interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Bien sûr. Donc Daniel, j'ai 34 ans, ça fait 23 ans que je fais de l'informatique, dont 11 ans en milieu professionnel. À la base, je suis un ops avec un mindset DevOps depuis environ 5 ans. Donc j'ai une expertise vraiment en observabilité, en conduite au changement, en usine de dev, en durcissement au niveau sécu. J'ai un passif de formateur aussi. J'ai formé plus d'une cinquantaine de fois un nombre de panels assez incalculable de personnes, notamment pour les ESN, mais pas que. Et moi, mon leitmotiv, c'est j'adore transmettre et faciliter les équipes, le quotidien des équipes, pardon. Donc, je suis très orienté outils, processus, mais avant tout, état d'esprit, transmission de l'information.
Eh ben, merci. Du coup, vu que tu parles de ça, c'est quoi ta définition du DevOps?
Alors, c'est très personnel, mais moi, j'adore discuter avec les devs, j'adore discuter avec le produit. Et ma définition à moi, elle est très simple. En fait, comme tout le monde le dit, c'est de casser un petit peu les barrières qu'on a entre ces différents types de personnalités, différents types d'état d'esprit. L'ops, il est beaucoup plus orienté, on va dire, stabilité, automatisation au niveau de l'infrastructure. Le développeur, lui, quant à lui, il voit l'accès à son code base, sa stabilité aussi, son maintien dans le temps. Et il y a des notions qui viennent un petit peu casser les murs, les notions de performance, les notions d'observabilité, les notions de coordination. Et le but du jeu, c'est de créer le plus de valeur possible. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Donc, en plus des outils, évidemment, j'en parle pas, mais c'est vraiment les fondations. Il y a l'outil, l'état d'esprit, et derrière l'objectif. Moi, en tant que co-ops qui fait du DevOps, c'est d'aider notamment les développeurs au niveau de leur propre expérience, c'est-à-dire de leur mettre à disposition des plateformes les plus simples possibles, les plus stables possibles, et de créer des guidelines autour de tout ça. Donc, le but du jeu, voilà, c'est de se parler au quotidien.
Bon, bah, nickel. Je pense que j'aurai des questions après, justement, à ce niveau-là. Vu que tu nous dis que ça fait 5 ans que tu as finalement rencontré DevOps, ça s'est passé comment en fait? C'est quoi qui a été l'élément déclencheur et comment tu as rencontré ce mouvement-là?
Alors, assez tôt, notamment dans des missions d'audit, de conseil, de réalisation, lorsque j'étais freelance, dès 2011, j'ai tout de suite vu que ça avait une certaine, on va dire, un certain intérêt, et moi je l'ai vu très facilement dans le sens où dans une mission je devais mettre en place un outil qui s'appelle Jenkins, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qui à l'époque s'appelait Hudson. je voyais bien qu'il y avait une problématique de culture justement entre les devs et les ops, et je m'étais documenté, je me rappelle très très bien de ça, sur les bonnes pratiques justement à adopter. C'était encore assez jeune à cette époque-là, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait un réel intérêt et que c'était très très vite partagé avec les développeurs, notamment dans le cadre de cette mission-là où je devais mettre en place une usine de dev ainsi que des tests automatisés voilà, pour cette structure qui était à l'époque une petite PME.
Et du coup, finalement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de passer à ça ? Dans ta vie professionnelle, alors ça... évidemment. Hein.
Ah non, je voulais parler de ma vie perso aussi. Moi, ça a tout changé. Ça a absolument tout changé. Ça m'a permis de m'élever, d'avoir beaucoup plus de compétences techniques, d'avoir un petit peu plus de soft skills aussi, c'est-à-dire de trouver des bons éléments de langage pour parler avec les développeurs. Il faut utiliser des dictionnaires de synonymes quelquefois, mais voilà, ça m'a beaucoup apporté sur ça, et évidemment une vision transverse que j'ai eue au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, mais vraiment sans le mindset de DevOps, je pense pas que j'y serais arrivé aussi rapidement. Et ça fait le lien avec un autre de mes métiers aujourd'hui, chez SRE, chez USign, et je pense qu'on va en parler dans la suite de l'entretien.
Tout à fait, on va en parler justement. Tout à l'heure, tu me parlais, tu aimais bien discuter avec les devs. Moi, c'est vrai aussi que j'aime beaucoup discuter avec les devs, mais moi, je suis un dev à l'origine. Je suis un développeur back. Enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est comme ça que ça l'est. Développeur back-end dans C, Pro C. Et du coup, bon, je suis pas là pour raconter ma vie, mais du coup, quand tu parles avec les devs, que ce soit dans ton entreprise ou dans l'entreprise que tu as citée avant, comment ils perçoivent le DevOps? Comment est-ce que ça change quelque chose aussi à leur quotidien? Ou est-ce qu'ils sont moins sensibles que nous, les ops, à ça? Parce qu'on sait que c'est un mouvement qui vient des ops, mais est-ce que ça rentre chez les devs que tu as côtoyés?
Alors oui, ça rentre chez les devs. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, côté SRE et niveau ops, on va dire de manière générale, on essaye de mettre en place des processus, un maximum. Dans les processus, il y a aussi des méthodologies. Typiquement, comme j'ai dit tout à l'heure, la performance, la sécurité, l'observabilité, etc. Et donc le monde du DevOps permet largement, en fait, de casser ces barrières-là. Et au quotidien, ce que ça change pour les développeurs, déjà, c'est d'avoir une personne à qui parler. Ça peut être un petit peu ridicule dit comme ça, mais en fait, ça change absolument tout. C'est-à-dire que la porte, elle n'est pas fermée lorsqu'on veut faire une discussion avec un développeur et nous-mêmes. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et ça fait aussi le lien avec une chose dont on parle assez peu. On parle souvent des devs et des ops, mais on oublie souvent le métier. Et en fait, ce mouvement de DevOps, il est vraiment très inclusif. Et le but du jeu aussi, c'est de vraiment donner des éléments de langage, de parler, là encore, et toujours, de performance, de maintenabilité, de disponibilité, d'éléments hautement disponibles, etc., au quotidien, pour les acculturer. Donc, c'est quelque chose de très long, en général, à mettre en place dans une structure. Ça peut prendre minimum, je dirais, 6 mois dans une structure pour avoir les prémices d'un mouvement DevOps. Ça peut jamais s'arrêter. C'est vraiment dans des axes d'amélioration continue. Donc, en fonction des typologies de population, là aussi, si on a des juniors, si on a des intermédiaires, si on a des seniors, on met en place un certain nombre d'éléments, de cérémonies. Et au fur et à mesure, de manière assez naturelle, on arrive à s'élever les uns les autres.
Ouais, c'est bien que t'en parles, parce que pour moi, le DevOps, c'est vrai que c'est un mouvement qui nous concerne, nous, les métiers de la tech, mais typiquement, pour moi, c'est un mouvement qui doit déborder, qui doit aller dans toute l'entreprise. Enfin, si on parle de l'amélioration continue, même de l'automatisation, c'est-à-dire automatiser nos tâches, ça peut toucher tous les métiers. Et la coopération, ça devrait vraiment tous nous toucher. Parce qu'en plus, on a un truc dans le DevOps, on en parle assez peu, mais moi, ça me porte beaucoup. Surtout moi qui suis entrepreneur, c'est le retour sur investissement. On doit toujours se poser des questions sur est-ce qu'on va automatiser ça et est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement sur ce qu'on va faire. Est-ce que toi, tu te poses ces questions-là justement quand tu automatises des choses?
Alors tout le temps. Alors tout le temps, moi, je suis très, très, très au fait de tout ça. J'ai été moi-même aussi entrepreneur, donc je comprends tout à fait les problématiques que peut avoir une entreprise de manière générale. Le but du jeu, c'est de le mesurer très, très tôt. Moi, je suis preneur du fait d'utiliser un maximum de MVP, c'est-à-dire d'avoir un produit le plus simple possible au départ et d'itérer. si possible, automatisé dès le départ. Là aussi, s'appuyer des outils d'infrastructure as code, mais pas que. Je pense à mes collègues qui sont aussi gros ingénieurs, etc. Eux-mêmes aussi ont des outils. Et le but du jeu, voilà, c'est d'acculturer les personnes, d'amener de l'automatisation. Et pour automatiser, ça fait le lien avec un autre métier qui est l'observabilité. Si on mesure pas une progression, on peut pas s'améliorer. En tout cas, de mon point de vue. Le lien, il est très très fort entre l'automatisation, l'observabilité. Et de manière générale, aujourd'hui, on a tous les outils à disposition pour automatiser quasiment dès le départ. Que ce soit avec des outils en relation avec l'infrastructure as code, que ce soit avec les différents cloud providers, il est possible d'automatiser un très très grand nombre de choses, et notamment avec d'autres outils annexes, typiquement Zapier et autres, qui permettent là aussi d'automatiser une très grande panoplie d'actions au quotidien.
Ah justement, ça pourrait être intéressant qu'on parle de no-code peut-être sur cette chaîne. J'en ai parlé avec quelqu'un, mais sur mon autre chaîne YouTube, la chaîne entrepreneuriale. Mais bon, on est pas là pour ça aujourd'hui. Et la question que je vais te poser, c'est comment ça se passe chez YouSign? Comment est-ce que vous vivez le DevOps? Comment est-ce que vous le mettez en place dans votre entreprise? Parce que c'est grand, en fait. Il y a combien de tech, justement, chez vous?
Alors aujourd'hui, on est une soixantaine, et le but du jeu, c'est qu'en fin de cette année, on soit le double. Donc on est en pleine période de recrutement, de manière générale. Et effectivement, dans ce contexte-là, assez précis, pour onboarder les personnes sur du mindset DevOps, il y a plusieurs outils à disposition. Grossièrement, dès que la personne est embauchée chez nous, il y a un onboarding qui est métier la première semaine. Donc, la personne découvre absolument tous les métiers au sein de YouSign, technique et non technique, évidemment. C'est vraiment pour lui donner un socle de base. Peut-être pour rappeler un petit peu, donc YouSign, on fait de la signature électronique et l'objectif, c'est d'être leader européen. Et donc, pour ce faire, on fait de la signature électronique, mais pas que. On est en train de aussi développer des plateformes pour la gestion documentaire. Et en ce sens, on onboard encore des personnes sur des métiers relativement différents. Ça peut être des personnes qui sont en relation avec le développement pur, développeur back, front. Ça peut être avec des personnes qui sont là pour l'automatisation, là aussi avec du no-code. Donc, c'est très intéressant. Et cette période d'onboarding-là, en fait, elle est complétée par un onboarding, cette fois-ci, métier. Donc, chacune des squads onboard les personnes dans leur squad au quotidien pendant un certain nombre de temps. Il y a plusieurs temporalités. En général, la première semaine, ça va être toute la partie création des comptes, vérifier que la personne arrive à bien accéder aux outils, qu'elle arrive à accéder à notre ressource documentaire qui aujourd'hui se trouve sur Notion. Pour vous donner une petite idée, on a plusieurs milliers de pages aujourd'hui de documents. Sans parler du fait qu'on en développe un maximum aussi de vidéos, là aussi. Ça fait écho avec la transmission. Le savoir, il se transmet par l'écrit, mais il se transmet aussi beaucoup par l'oral. Et on mémorise, dans ce que j'ai pu voir dans mes expériences, beaucoup plus par des médias en relation avec de la vidéo ou de l'audio plutôt que par l'écrit. Et ça s'explique pour tout un tas de raisons. On encourage les personnes à prendre des notes et à améliorer la documentation au fur et à mesure. Donc là, pour vous donner une petite idée, une documentation, des fois, elle peut être éditée par une dizaine de personnes. C'est le but. En fait, il faut que ce soit très collaboratif. Donc une fois que tout ça est fait, on va dire que ça peut prendre là aussi plusieurs mois. Et pourquoi ça peut prendre plusieurs mois? On fait énormément de cérémonies autour du pair programming, que ce soit pour les devs ou pour les ops. Donc la personne, par exemple, aujourd'hui qu'on onboard au sein de l'équipe SRE, qui s'appelle Rémi, qui nous a rejoint il y a environ un mois maintenant, on l'onboard de cette façon-là. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, ça va parler à tout le monde. La première semaine, donc, on a créé les comptes, on a accédé avec lui à l'ensemble des outils pour vérifier s'ils fonctionnaient bien de son point de vue. Et ensuite, on l'a onboardé sur le run. Donc, comment gérer les incidents, comment communiquer avec les développeurs, sachant que les développeurs chez nous s'occupent des incidents en partie sur nos productions. On les onboard aussi sur la production. Et donc, pour ce faire, quand on onboard une personne, on vérifie en fait l'état de ses connaissances. Typiquement, on lui donne accès à un certain nombre de ressources documentaires, on lui fait des sessions sous forme de workshop, Typiquement, ben, dans le cadre du métier de SRI, comment on fait pour troubleshooter un incident, on utilise quel outil, quelles sont notre politique liées à nos SLA, à nos SLO, etc. Et ensuite, on vérifie l'acquisition de ces compétences au fur et à mesure. On n'hésite pas là aussi, et c'est très utile, notamment du côté de SRI, c'est de répéter les incidents. Donc là, on peut très bien le faire là, du même côté, mais côté développeur. Typiquement, on se met du côté du développeur, on voit qu'il y a eu un bug, on essaye de reprocesser le bug, de retrouver ben, pourquoi il s'est créé, et aussi les façons dont on pouvait les corriger. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça fait appel à d'autres techniques derrière. On peut noter aussi le coding dojo. Dans certaines entreprises, on en fait. Chez Usain, pas encore. Mais voilà, il y a beaucoup de cérémonies à créer autour de l'onboarding. Et bien sûr, la culture documentaire, la transmission des compétences se fait, comme je l'ai dit, sur du très long terme. Aujourd'hui, on onboard des personnes grossièrement, il leur faut entre 3 mois et 6 mois pour être opérationnel sur le métier. Et ça s'explique. Ça s'explique pour différentes raisons là aussi. Ça s'explique parce que nous avons déjà beaucoup d'outils. On a une plateforme qui est aujourd'hui très performante et elle a besoin, on va dire, de beaucoup de soins au quotidien, notamment pour la maintenir. Ce qui est assez logique. On a une bonne partie de notre infrastructure qui est en France, donc ça s'explique aussi par différentes thématiques autour de la gestion du stockage, autour de l'observabilité, autour de la performance, etc. Donc sur chacun de ces éléments-là, on essaie de lui donner des guidelines. On essaye là aussi de le sonder. Typiquement, dès lors qu'il a fait une session de formation, on lui demande son feedback, s'il y a des axes d'amélioration. Voilà, là je synthétise très très rapidement, mais tout ça pour dire que voilà, ça prend aujourd'hui des mois, voire des années en fait pour monter en compétence sur un domaine, et encore plus pour des juniors.
C'est bien de synthétiser, ça me laisse le temps de te poser des questions et de réagir à ce que tu dis. En plus, tu me coupes mes futures questions, mais c'est pas grave. En fait, je me posais la question, t'as parlé de ressources documentaires et autres. Nous aussi, on fait ça, mais on est moins gros que vous. Veux-tu utiliser quel type d'outils justement pour partager cette ressource documentaire et que tout le monde puisse le modifier? Est-ce que vous utilisez des wikis, autre chose?
Alors des wikis, essentiellement Notion, qui est pas un outil open source, mais aujourd'hui, on a testé un peu tout. On a testé Confluence, on a testé Slide. Anciennement, il y avait même des outils open source, typiquement que DocuWiki, etc., qu'on utilisait. Mais Notion a des avantages. L'avantage indéniable, c'est d'avoir accès à ce qu'on appelle des databases. Databases, en fait, c'est on peut corréler des données, des pages avec d'autres, trouver des gestions de tags. Etc. Et tout ça, ça participe vraiment, on va dire, à ce que tout le monde puisse collaborer. Il y a une gestion des commentaires, évidemment. Ça va très très loin. On peut automatiser, on peut faire des templates. Nous, on est très très fan de templates. Aujourd'hui, on essaie de templatiser tout un tas de ressources. Et ensuite, comme tu me l'as demandé, effectivement, on n'a pas que des wikis, on a aussi la vidéo, donc on a un petit catalogue en fait de vidéos sur lesquelles tout un chacun en fait peut y participer. Il veut présenter un produit, il s'enregistre, il peut répondre à des questions en live ou autre. Et le but du jeu en fait, c'est tout simplement de collaborer sur de la culture documentaire. La culture documentaire, à mon sens, elle peut pas fonctionner s'il n'y en a qu'un qui écrit. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que les personnes y participent au quotidien. Donc voilà, il y a tout un tas de formes et peut-être dans le futur, on essaiera peut-être de créer des podcasts en interne, pourquoi pas.
Je vous le souhaite. En tout cas, je crois beaucoup, comme tu le dis, à la puissance de la vidéo. Depuis que je fais des vidéos, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais faire en vidéo pour nous. Mais ça prend du temps, mine de rien. Et puis nous, on est tout petit. Alors nous, on est 4. Donc dès qu'il y en a un qui fait de la vidéo pour 4, tout de suite tu prends 25% des ressources pour ça. Ça commence à se voir pas mal. Mais bon, l'idée est là.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Je réfléchis beaucoup justement à l'onboarding aussi chez nous, parce que nous on a un process d'onboarding qui est moins long. Alors tu disais 3 à 6 mois c'est long, mais pour être efficace, mais c'est pas si long que ça, parce que dans toutes les boîtes, pour être vraiment efficace dans les boîtes tech, il faut quand même du temps, il faut connaître le métier, etc. Et donc moi je suis en train de penser à un truc, je sais pas ce que tu veux en penser, je sais pas comment vous faites chez vous, mais j'ai bien envie chez nous. Alors nous on utilise Froggit au quotidien maintenant, on utilise notre usine logicielle, et tous les gens qui travaillent chez l'Hydra, même les non-tech, ont un compte, et je pensais justement à faire un dépôt d'onboarding avec des issues, et tu passes les issues petit à petit sur chaque sujet, et t'as des vidéos, du texte à lire en fonction des issues, tu peux comme ça cloner ton dépôt quand t'arrives, et tu fais... avec le board de GitLab, tu fais ton onboarding semi-autonome. Je dis semi-autonome parce que évidemment il y a des rendez-vous et des discussions, parce que nous on colle les discussions. Je ne sais pas ce que vous faites chez vous, si ça peut se rapprocher de ça.
C'est une si, il y a à peu près ça qui est fait côté justement développeur. En fait, ils clonent le code base, et ensuite ils regardent un petit peu les issues les plus, j'allais dire les plus marquantes de l'année. Ils essayent de reprocesser un petit peu tout ça dans leur tête, et en fait il y a rien de mieux qu'un incident et des post-mortems, parce que j'en ai pas parlé aussi, mais on a une culture des post-mortems assez haute chez nous. On l'a mis en place depuis environ 2 ans. Il y a des articles de blog qui vont en parler dans les jours à venir d'ailleurs à ce propos, mais tout ça pour dire que on apprend des autres, mais on apprend aussi beaucoup en fait des erreurs qui ont été faites par le passé. Et donc c'est une très bonne initiative, comme tu l'expliques. Moi j'ai déjà vécu ça aussi dans d'autres entreprises, notamment chez Orange, où quand j'étais arrivé en poste dans une équipe, là aussi une squad de 8 personnes avec des PM, avec des développeurs et des intégrateurs. Et moi-même, j'ai dû cloner un certain nombre de repos, déployer un certain nombre de stacks en local, déployer la stack même de l'entreprise en fait, quasiment avec un certain nombre d'applications derrière, essayer de voir comment elle était monitorée, la performance associée, etc. Et ça, je trouve ça très bien d'ailleurs au quotidien. C'est très intéressant comme méthodologie pour onboarder quelqu'un. Par la pratique, c'est encore mieux que c'est encore mieux. La théorie, c'est très bien, mais la pratique, c'est beaucoup mieux pour retenir. On s'en aperçoit très très bien lorsqu'on anime des formations. Moi-même, quand je faisais des formations, c'est ce que je disais tout le temps aux personnes avec qui je pouvais échanger au quotidien, donc des stagiaires essentiellement, des adultes évidemment, de leur dire que si on met pas en pratique quasiment tout de suite après la formation, sachant que dans la formation contient déjà une partie pratique, on oublie très très vite. Et c'est déjà le cas en fait, très très rapidement, on va dire dans les 48 heures à venir, si on pratique pas, on oublie. Donc l'onboarding, c'est très bien. Il faut vraiment pas oublier, comme tu le dis, de passer sur la pratique. C'est vraiment essentiel.
Ouais, mais justement, on va parler des formations juste après. Est-ce que tu sens que toi ou est-ce que la boîte sent, est-ce que vous avez des métriques là-dessus sur est-ce que tout ce process que vous avez mis en place, est-ce que ça limite le turnover?
Alors oui, alors pourquoi? Déjà nous le turnover, c'est assez historique, mais YouSend ça existe depuis 8 ans. Et il y a eu très, mais vraiment très très peu de turnover. Moi je suis chez YouSend depuis un peu plus d'un an, et il y a eu même pas 1% de turnover, pour expliquer un petit peu. Néanmoins, pourquoi on a moins de turnover que certaines autres entreprises? Bien sûr, on n'est pas les seuls à avoir ce taux-là. ça s'explique, et notamment par la transmission du savoir, l'onboarding et les conditions d'accès à des contenus techniques. Où là, ça va être très intéressant parce qu'on est en train de mettre, justement, pour faire écho avec ce que tu dis, des cursus de formation interne avec une plateforme qui s'appelle 360 Learning et un autre cursus de formation, plutôt de formation, j'allais dire, continue avec des partenaires privilégiés, notamment, par exemple, on peut citer une plateforme avec Udemy, par exemple. C'est ce qu'on envisage de faire pour vraiment donner une ressource et une culture finalement de la compétence technique ou les soft skills d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des compétences techniques, mais un petit peu moins des soft skills. Mais la bonne communication au sein d'une équipe, comment gérer des conflits, etc., c'est très 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 important. Et là aussi, je pense aussi que ces types de ressources là sont clairement utiles pour garder le savoir. On va dire un maximum de temps dans sa tête. Et pour ce faire, il faut donner des cérémonies, c'est-à-dire d'avoir très très souvent dans l'année des périodes où on monte en compétence par soi-même ou avec l'aide des autres.
Et parce que là, tu cites des acteurs un peu implantés, est-ce que vous faites parfois appel à des formateurs indépendants pour vous concevoir des formations ou pas du tout ?
Alors, pas encore à ce jour. En toute transparence, on est en train de revoir justement ce catalogue de formations-là. On est largement aidé sur ça. On a des personnes en interne qui sont, on va dire, très à même et très au fait de gérer tout ça. Mais on a quelques sessions de présentation plus que de la formation au cours de l'année, notamment dans nos sessions de tech meeting qui se font aujourd'hui tous les 3 mois, et dans lequel il y a des intervenants qui viennent, que ce soit pour de la technique ou pas d'ailleurs. Essentiellement, les derniers qu'on a eus, c'était pas pour de la technique, c'était plus pour de la présentation, notamment sur des domaines divers et variés. Ça peut être sur l'écologie, ça peut être sur la performance, ça peut être sur tout un tas de domaines. Donc nous, pour l'instant, on fait que ça. Mais l'objectif, là aussi, c'est voilà, de faire venir des intervenants. Parce que c'est très bien d'avoir un recul avec les personnes. Nous, on est en interne, donc on arrive à transmettre un certain niveau d'information, mais quelqu'un de l'extérieur peut voir certaines choses qui pourraient être améliorées, et c'est très utile. Et notamment, je reviens au fait que même si moi-même j'ai été formateur par le passé, j'adore passer des formations, vraiment. Et là aussi, c'est comme un coach de sport, il a besoin d'un coach. Voilà, donc tout ça pour dire que la formation, en fait, elle ne s'arrête jamais. C'est vraiment une formation qui est continue.
Bah, surtout quand on est dans ce mouvement-là, le mouvement DevOps, où on s'améliore en continu, ça fait partie des choses, finalement, de se former et d'apprendre de nouvelles choses ou d'apprendre de nouvelles façons de voir des choses qu'on connaît déjà. Est-ce que vous faites justement des Brokeback Lunch, excusez mon anglais, mais des déjeuners où vous vous invitez justement, parce que tu as parlé des rencontres tech, mais où vous invitez un expert pour discuter autour d'un déjeuner?
Alors ça, pas encore, mais je pense que cette année on va le faire. Il y a déjà des initiatives qui sont en cours de réflexion à ce niveau-là. C'est très intéressant en fait de faire venir des acteurs extérieurs, pour la tech ou pas d'ailleurs. Nous, on est très au fait de certaines méthodologies, notamment on fait du PLG, enfin ça parlera à ceux qui font un petit peu plus de produits. On met en place évidemment des cérémonies agiles. On aime bien, on va dire, démocratiser et revenir sur des notions de culture du feedback. Et pour ce faire, en fait, faire appel à des formateurs extérieurs, notamment pour être plus performant sur ces domaines-là, pour discuter autour de quelque chose de très simple. Typiquement, on pourrait faire venir des personnes qui ont écrit un certain livre, fasciner les autographes, mais pas que, voir derrière ce qui se cache derrière le livre, ça peut être aussi intéressant. Je l'ai déjà vécu, non pas chez Usain, mais dans d'autres entreprises beaucoup plus grosses, parce que pour faire venir un certain nombre d'acteurs de manière régulière, c'est surtout cette notion de régularité qui est importante à mon sens, il faut un certain nombre de personnes pour gérer ça au quotidien. Sélectionner les personnes pour parler, évidemment. Il faut les accueillir, il faut avoir un emplacement pour les accueillir correctement, etc.
Oui, en plus, ça doit avoir un certain coût, non seulement humain pour vous, mais aussi pour faire venir les gens, parce que la plupart des gens dont tu parles, ils doivent être très sollicités. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent plus faire ça de manière bénévole. Un jour, on n'arrête pas de me demander plein de trucs, mais à un moment donné, nos journées font 24 heures et puis on n'a que 365 jours, donc il faut faire des choix, donc ça doit être compliqué. Justement, tu nous parles de formation et d'apprentissage toi, cher auditeur, tu sais à quel point je crois en l'apprentissage grâce au mentorat. J'en ai d'ailleurs parlé dans un épisode qui s'appelle En solo numéro 6, apprenez plus vite grâce à un mentor. Je ne sais pas si tu l'as écouté, toi, Daniel, celui-là.
Oui, tout à fait.
On va en parler, justement. Moi, je te mets le lien en description à toi qui écoute le podcast. Et Daniel, d'ailleurs, est-ce que tu as écouté cet épisode? Qu'en as-tu pensé? Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est chez vous, est-ce que vous avez du mentorat interne? Et si c'est développé, comment ça se passe?
Alors, très simplement, moi, ce que j'en ai pensé, c'est déjà un épisode assez complet. Il fait appel à différentes notions, le transfert de compétences, le mentoring, la formation, tout ça, c'est un certain nombre de cycles. Et après, ce que ça veut dire derrière, c'est des différentes formes et différents niveaux de transfert de compétences. C'est-à-dire, il y a une notion de temporalité, et ça, tu l'abordes du coup dans le podcast. Et ce qui est très intéressant aussi, justement, sur ce podcast précis, c'est que on a vraiment un lien assez fort, du coup, avec la communauté que tu as créée. Et ça, je trouve ça très, très important, aujourd'hui, d'avoir une communauté francophone pour justement s'échanger un certain nombre de tips. Pour se rencontrer aussi en physique. Avec le Covid, c'est assez compliqué. Mais sinon, je pense qu'on pourra faire ça après par la suite. Voilà.
Oui, j'ai des idées là-dessus pour des séminaires. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais justement. Et dans votre boîte, plus particulièrement, est-ce que vous avez instauré le mentorat? Est-ce que ça se fait pas? Est-ce que c'est de manière informelle? Est-ce que c'est de manière formelle?
Alors aujourd'hui, on est au début de ça. Il y a des personnes qui sont très motivées pour le faire. Bien sûr, je suis pas le seul très motivé à le faire. Il faut s'appuyer de personnes qui sont relativement seniors, mais pas que. Donc pour l'instant, on va dire dans cette année, vu qu'on va onboarder énormément de personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, on va doubler notre effectif. On va avoir un certain nombre, on va dire, de temps de travail associé à cet onboarding-là. On l'aura pas encore pour du mentoring tel qu'on pourrait le penser. Moi, à mon sens, le mentoring, là aussi, il y a différentes formes. On pourrait avoir tout simplement des personnes qui sont là en termes de, on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a un terme pour ça, on appelle ça un buddy, c'est-à-dire une personne qui va forcément relire le code, qui va donner des axes d'amélioration. D'ailleurs, sans pollue. Globalement l'automatiser, parce que nous chez Usain, on est très fan des bots, donc certains développeurs ont développé des codes pour améliorer la code review, notamment les passages de release, etc. Et donc pour ce faire, le mentorat, on va dire que ça va être certainement des pistes sur lesquelles on pourra s'améliorer sur l'année 2023.
Sans aller vers du mentorat pur et dur, moi c'est vrai que le mentorat fait partie du compagnonnage, mais le compagnonnage, il y a une notion un peu moins formelle que le mentorat, c'est d'avoir quelqu'un à qui tu peux poser des questions et qui t'accompagne en fait. Moi j'essaie de mettre ça en place dans ma coopérative d'entrepreneurs, un compagnonnage entrepreneurial du coup, mais je crois beaucoup à cet aspect compagnonnage. Évidemment, si j'ai créé les compagnons DevOps, c'est aussi pour ça, hein. Ne nous cachons pas. Je crois qu'il y a beaucoup à apprendre justement des compagnons du devoir, parce que vous vous en doutez tous, hein, mais c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et cet aspect mentor, élève, je vais pas citer Star Wars, mais tout le monde l'a en tête aussi, le côté maître, apprenti, enfin bon. Il y a cette logique-là où je pense qu'on peut apprendre et on a tous besoin d'un mentor et d'un mentoré de manière globale. Je crois que tu es d'accord avec moi.
Tout à fait, absolument.
Bon. Du coup, est-ce que tu as un dernier truc à nous dire sur la transmission et justement, tout à l'heure, tu as parlé de la culture du feedback, j'aimerais bien qu'on y revienne. La culture du feedback et la culture de l'échec, est-ce que vous l'avez chez vous? Est-ce que c'est une boîte française?
Oui,
est-ce
tout à
que,
fait.
Justement, vous avez les travers de boîtes françaises, ou est-ce que vous avez justement cette culture du feedback et cette culture de l'échec qui fait que, on apprend de ses échecs et c'est pas si grave si on fait un échec et on doit apprendre de ses échecs.
Alors oui, tout à fait. On est très très friand de ça. Ça s'explique parce que notre CTO a très très tôt mis en place finalement ce genre de pratique au sein de l'entreprise. Pour ce faire, on a différents inputs, on va dire au quotidien, pour gérer tout ça. On a, comme j'ai dit, les post-mortem. Donc les post-mortem, pour rappel, dès lors qu'on a un incident qui touche un certain nombre de personnes, en l'occurrence nos clients, on communique à l'ensemble de nos clients les éléments qui ont permis de détecter, troubleshooter la panne. Et nous, en interne, on documente ça de manière beaucoup plus précise et complète. Ça permet à la personne d'avoir une timeline, de se dire l'incident est arrivé à telle heure, telle personne l'a pris en charge, la criticité, c'est telle criticité, les moyens d'action permettant de s'améliorer. Donc après, on a un mécanisme qui fait qu'on se revoit avec les personnes qui sont responsables justement de ce périmètre applicatif. Là aussi, je mets un point d'honneur, on met un point d'honneur à ce qu'on blâme pas les personnes en fait. Donc c'est ce qu'on appelle le blameless post-mortem. On ne blâme pas les personnes. Par contre, le but du jeu, c'est de s'améliorer. Donc le but, c'est de ne pas avoir le même incident le lendemain ou l'année d'après. Et donc pour ce faire, on a un véritable suivi. Ça fait partie, on va dire, d'un sous-ensemble qui est la gestion des incidents. Et pour s'améliorer, là aussi, tu parlais de culture de l'échec, etc. Nous, on est relativement bienveillants. Le but du jeu, en fait, c'est qu'on s'améliore. Donc, en fait, on n'est pas là à se dire c'est telle personne, c'est telle équipe, etc. Qui a fait une erreur. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Et le but du jeu, c'est de faire le lien encore avec les différents processus de SRI, qui sont les post-mortem, qui sont les SLO, c'est-à-dire de s'engager sur un délai de réponse, s'engager sur une rapidité d'implémentation, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est la culture du feedback, elle est très profonde. Je vais donner un exemple précis. Moi, j'avais fait une vidéo sur la présentation de Datadog, qui est un outil d'observabilité qu'on utilise chez Usain. J'ai mis en place un micro-cursus de formation, plutôt du discovery, c'est-à-dire de la présentation de l'outil. C'est pas encore quelque chose de très précis, on essaye de le faire au fur et à mesure, parce que c'est assez récent, le passage à Datadog s'est fait il y a quelques mois à peine. Et derrière, ce qu'on fait, c'est que nous, on envoie un typeform à l'ensemble des équipes pour leur dire, est-ce que ça vous suffit en termes de ressources documentaires? Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des choses où on est passé à côté pour lesquelles on va devoir s'améliorer? Voilà. Donc là, on va dire la culture du feedback, elle est omniprésente. Elle est omniprésente aussi au niveau d'une équipe qui s'appelle le Customer Care, qui sont, on va dire, en lien direct avec nos clients. Ils prennent les feedbacks des clients, ils remontent au produit. Que ce soit un feedback positif ou négatif, là aussi, on est très à même de gérer ça au sein du Sign. Et voilà, tout simplement pour dire qu'on a la culture du feedback aussi bien dans la tech qu'au niveau du produit. Et même bien au-delà de ça, on a une culture très très importante au niveau du people. Typiquement, s'il y a de la communication à faire sur un élément différenciant, typiquement, on veut mettre en place un nouvel outil, un nouveau processus, etc. On mesure le taux de satisfaction, ce qu'on appelle le NPS. Nous, on le fait de manière très interne, c'est-à-dire que notre employeur, tous les 3 mois de mémoire, nous envoie une enquête pour savoir si tout se passe bien au sein du Sign, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses sur lesquelles on est très content. Donc là aussi, en fait, le feedback, il est quasi, j'allais dire, sur toute la chaîne. Et c'est, à mon sens, très important. Il ne faut pas qu'il soit que sur de la tech, ni que sur du produit, ni que sur du people de côté employeur.
Bah, ça a l'air super cool de travailler chez vous. Je pense que si j'étais pas entrepreneur, j'envisagerais peut-être de vous rejoindre. Mais du coup, tu as dit que vous vouliez doubler vos effectifs. Alors j'imagine que vous avez plein de postes ouverts. Alors c'est pas l'objet du podcast, mais si tu as un job board ou quoi, tu peux me le passer. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Bien sûr. Comme ça, les gens qui seraient intéressés pourraient vous rejoindre. J'imagine que vous avez plein de postes tech.
Tout à fait, énormément de postes, que ce soit sur du développement, que ce soit sur la partie produit, que ce soit sur la partie marketing, etc. Donc voilà, je t'enverrai évidemment le lien avec très très grand plaisir.
Bon, je pense qu'on pourra encore discuter pendant longtemps, mais le podcast avance, du coup je vais te poser ma dernière question avant de clôturer. Mais oui. Est-ce que justement tu as envie de partager quelque chose, un livre, un article, une conférence ou une vidéo ou quoi que ce soit à nos auditeurs et auditrices?
Alors oui, moi j'essaie de m'améliorer sur ma communication depuis des années. C'est quelque chose qui sera jamais terminé, évidemment. Donc moi je conseillerais un livre que je dois voir là d'ailleurs, qui s'appelle Maîtriser l'art de la communication. C'est les cahiers de Harvard Business Review qui sont très intéressants. Et pourquoi ce livre-là? Tout simplement parce que ça fait un lien avec la communication, la transmission du savoir. Comment essayer de transmettre au quotidien de manière efficace. Voilà. Et puis peut-être un second livre plutôt orienté, j'allais dire tech. Moi, je conseillerais très, très largement le livre de Google sur les SRI, qui est disponible d'ailleurs en version non pas open sourcée, mais disponible sur la toile de manière gratuite. Donc, c'est un freemium. Voilà, ça permettra, on va dire, à tes auditeurs de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le SRI et de voir les mécanismes associés.
Eh ben écoute, si tu as un lien pour ces deux références, je suis preneur. Et je te remercie en tout cas, je te dis à très bientôt dans un podcast, il n'y a plus qu'à prendre la place. Maintenant on commence à être nombreux, mais c'est bien, du coup on va pouvoir être régulier, ce qui nous permet d'être régulier depuis plus d'un an en tout cas. Et quant à toi, cher auditeur et auditrice, si tu as apprécié cet épisode de podcast et si tu veux approfondir tes soft skills, puisqu'on en a parlé, et obtenir justement un état d'esprit DevOps, sache que j'ai une formation. J'en fais pas beaucoup la promo, mais qui s'appelle DevOps Mindset. Tu trouveras le lien en description, c'est le premier lien, et tu pourras aller t'inscrire, l'acheter si elle t'intéresse, et puis la suivre. Et ben merci, et puis à bientôt.
Merci beaucoup, Christophe. À bientôt.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt. La balado diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.